Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue à tous, c'est la belle histoire de France, chapitre par chapitre sur CNews avec Franck Ferrand, Marc Menant et aujourd'hui, chapitre 57, les années 30. On verra ensemble la délicate période de l'entre-deux-guerres avec l'exposition coloniale, l'avènement du Front populaire, les accords de Matignon, la guerre d'Espagne ou encore les accords de Munich, émission chargée. Ravi de vous retrouver messieurs.
Également.
Cher Marc, comment allez-vous ?
Écoutez, du moment qu'on est à votre droite, on se dit que les cieux sont avec nous.
Et quand on est à votre gauche, on est pas mal non plus.
Je précise que tout ça est bien improvisé, mais vous êtes exceptionnels tous les deux. Alors la dernière fois, mon cher Franck, nous avons vu l'exposition de Liberté des années folles. Au tournant de la décennie, les choses se gâtent un peu. Qu'est-ce qui se passe concrètement ?
Ben oui, ben d'abord, ce qui se gâte, c'est l'économie, tout simplement, et la finance. Vous savez qu'il y a eu ce krach boursier extraordinaire en 1929 à New York. Il faut attendre une petite année pour que les répercussions s'en fassent sentir sur le continent et notamment en France. Il y a toujours une espèce d'amortissement en France sur un plan financier. Vous savez que c'est le grand pays de l'épargne, la France. Il y a le fameux bas de laine, particulièrement dans cette époque des années 30. Il n'empêche que la crise arrive comme ailleurs. Alors, si l'on devait caractériser le début des années 30 en France, c'est d'abord le moment où, pour la dernière fois peut-être, la France va manifester la grande fierté qu'elle peut avoir de son empire colonial, avec la célèbre exposition qui se tient du printemps jusqu'à la fin de l'automne 1931. Dans le parc de Vincennes, vous savez qu'actuellement, le fameux zoo de Vincennes avec ses grands rochers artificiels, là, c'est le vestige, hein, c'est l'héritage de cette exposition coloniale dans laquelle on montre toutes les beautés de l'Empire, notamment le temple d'Angkor Wat, le temple cambodgien qui a été reconstitué intégralement dans l'exposition coloniale. 33 millions de visiteurs pendant 6 mois. Une exposition qui se tient sous l'égide du maréchal Lyautey, qui en est le commissaire général, qui mène tout ça d'un train d'enfer. Vous connaissez le Lyautey et son énergie légendaire. Et puis, il y a, c'est vrai, tous ceux qui sont contre le colonialisme, déjà, avec beaucoup de manifestations contre le colonialisme, avec le scandale...
Déjà du wokisme.
C'est pas du wokisme, c'est de l'anticolonialisme, incontestablement. Il y a la question de ces Kanaks, vous savez, de Nouvelle-Calédonie, qu'on a fait passer pour des cannibales.
Au jardin d'acclimatation.
Oui, c'est-à-dire qu'on essaie d'une certaine manière, peut-être, de tirer un peu trop vers le pittoresque. Il y a beaucoup de préjugés racistes, encore, c'est vrai. Et dans les 33 millions de gens qui viennent se promener dans cette exposition coloniale, il est certain qu'il y a des gens qui viennent d'abord pour s'amuser, pour se dépayser. Ça reste quand même, qu'on le veuille ou non, une sorte de grande fête populaire. C'est pas la fête partout dans l'Empire pendant ce temps-là. Il y a notamment la grande insurrection de Yen Bai en Indochine. Et on voit se créer le Parti communiste indochinois. Il faut savoir que des mouvements nationalistes et indépendantistes sont déjà en train de se créer un peu partout, à la faveur notamment de l'élaboration d'une nouvelle élite coloniale qui n'existait pas. Dites-vous que des gens comme Félix Houphouët-Boigny, comme Habib Bourguiba sont des produits de l'éducation française dans les colonies qui vont, d'une certaine manière, se retourner contre le colonialisme. Alors, il n'y a pas que la question des colonies. Ce qui frappe beaucoup les Français de cette période des années 30, du début des années 30, c'est le...
Oui. Juste avant... pour rester un peu sur cette exposition coloniale, est-ce que selon vous, pardon, c'est peut-être un peu hors sujet, mais est-ce que selon vous, une exposition coloniale peut avoir lieu un peu comme ça aujourd'hui ou pas du tout ?
Oh, pas du tout. Il est évident que, d'abord, il n'y a plus d'empire colonial. Nous avons quelques confettis de départements et territoires d'outre-mer. On pourrait imaginer de les mettre à l'honneur, ce qui a lieu d'ailleurs assez régulièrement, mais pas du tout dans la même optique. Là, le but, c'est, pour la France, de montrer sa puissance, sa grandeur. N'oubliez pas ce qui s'est passé en 1918-1919. La France a le sentiment d'être déclassée. Elle perd du terrain par rapport aux nouvelles grandes puissances que sont les États-Unis, l'Union soviétique. Et donc, il faut qu'elle montre qu'elle reste avec la Grande-Bretagne, bien sûr, un gigantesque empire. C'était ça l'idée. C'était vraiment d'abord et avant tout de la fierté. Ça, c'est incontestable. Et une forme de nationalisme. Or, justement, les Français sont assez dégoûtés de leurs institutions. Le parlementarisme fonctionne plus. Vous savez, il y a un film de cette époque, hein, un film qui d'abord était une pièce de théâtre de Marcel Pagnol, qui s'appelle Topaz. Et dans Topaz, on voit un petit instituteur tout à fait intègre qui découvre la prévarication, la magouille généralisée dans la classe politique et qui devient plus magouilleur que les magouilleurs. Mais c'est un peu ça l'ambiance. Il y a eu le scandale Oustrique, avant il y a eu l'affaire Martineau, il y a bien sûr l'affaire de Serge Stavisky, hein, ce qu'on appelle Monsieur Alexandre, avec le scandale du crédit municipal de Bayonne, tout ça.
L'homme qui se suicide avec une balle à un mètre de distance.
Oui, et on l'a suicidé dans son chalet de Chamonix, le fameux Stavisky. Bon, on ne va pas entrer dans toutes ces histoires, mais tout ça développe une forme de contestation. Vous avez les communistes qui lorgnent vers l'Union soviétique. Vous avez les nationalistes qui lorgnent vers l'Italie fasciste. Et puis surtout, vous avez toutes ces ligues qui sont des ligues nationalistes qui veulent liquider le parlementarisme. Et elles vont se réunir sur la place de la Concorde le 6 février 1934. Là, vraiment, c'était le jour de l'investiture de Daladier, hein, nouveau gouvernement Daladier, ça commençait mal pour lui. Et là, vraiment, on peut dire que la République vacille. Finalement, les ligues n'iront pas jusqu'au bout.
Colonel de la Roque, il faut lui rendre hommage, parce que c'est les quarts de feu. Et souvent, on aime, quand on hisse et qu'on rappelle ces événements, on dit « La Roque, le fasciste ». Or, ce jour-là, il dit « Nous sommes des légalistes ».
Oui, il est légaliste.
Manifestation sanglante.
Il reste dans un cadre tout nationaliste et anti-parlementariste qu'il peut être. Le colonel de la Roque ne veut pas faire tomber les institutions. Bref, tout ça pour vous montrer le climat terrible. Et au lendemain du 6 février 36, les socialistes et les communistes qui s'étaient séparés en 1920 au congrès de Tours, vous vous rappelez, on est 14 ans plus tard, voilà qu'ils défilent littéralement au sens propre, main dans la main, pour montrer l'unité. C'est le fameux Front républicain, c'est là que ça naît. Et ce Front républicain, il va se transformer en alliance électorale qu'on appellera le Front populaire.
Le Front populaire et Léon Blum. Mon cher Marc, nous allons revenir avec vous sur un épisode qui a marqué et qui continue de marquer encore l'histoire des gauches aujourd'hui. Le Front populaire qui sera à l'origine de nombreuses réformes.
Alors celui qui le déclenche, c'est Maurice Thorez, le communiste. Il dit, il faut que nous soyons alliés. Regardez, ce pays est en déliquescence tel que Franck vient de nous le camper. Et la seule façon d'arriver à recréer l'espoir, c'est avec une gauche unie. Il y a beaucoup d'effets miroirs dans ce que nous allons évoquer aujourd'hui.
Pardon, qu'est-ce qui vous fait sourire ?
Ce qui me fait sourire, c'est l'effet miroir. C'est-à-dire que cette histoire des années 30, avec beaucoup, il faut se méfier des trop grandes ressemblances. Hein. Parfois,
oui,
elles sont trompeuses.
Sûr,
mais enfin,
sûr.
Il est certain que dans ce que nous allons dire pendant une heure aujourd'hui, il y a énormément de choses qui font écho à notre situation actuelle, c'est sûr.
Et alors, il trouve un personnage, pour moi, emblématique, un personnage d'une envergure intellectuelle étonnante, un homme remarquable, c'est Léon Blum. Alors Léon Blum, c'est un socialiste au départ, il est issu d'une très bonne famille bourgeoise, on est dans la prospérité, dans l'étoffe, et il suit des études où il se distingue immédiatement. Alors ce qui est extraordinaire chez lui, c'est déjà sa prestance. Quand on le voit, vous savez, c'est cette attitude du dandy, de l'aristocrate naturel. Et il enflamme les uns et les autres car il a le goût du verbe. Et ça, ça le propulsera. Mais il aime tutoyer les mots. Ah oui, il n'est pas question de rester à distance, il faut être dans la familiarité. Tant et si bien qu'à 17 ans, il publie ses premiers poèmes. À Henri IV, il a rencontré Gide, qui sera son ami. Reste que déjà, en ces temps-là, avoir l'image du juif est un préjudice terrible. N'oublions pas qu'il y a un antisémitisme virulent. Alors, il le connaît dans ses premières années. Il nous faut les ellipser pour arriver en 1936. Ça, c'est simplement, comme il est myope, il échappe à la guerre de 14. En revanche, se retrouve à côté de Marcel Samba, qui est ministre, et il participe donc à une action politique. Il était au Conseil d'État, c'est là où ses études l'avaient conduit. après la guerre, il y a en 1919 la régénérescence, je dirais, de la gauche avec la césure, le fameux congrès de Tours. Et lui, eh bien, il est avec les socialistes. Il croit à ce monde dans lequel l'ouvrier pourrait avoir sa place. Mais l'ouvrier seul, c'est 60% de la population. Il y a aussi la petite bourgeoisie ou disons les employés. Il faut faire attention. Et si ces forces-là s'allient, eh bien, il y a un monde nouveau qui s'ouvre. Et c'est pour ça qu'il fait très attention à Maurice Thorez. Reste que cet antisémitisme est attisé au quotidien, en particulier par un journal, l'Action française de Maurras. Mais alors là, quand parfois on s'offusque à notre époque de assassins, de bâtards.
Ah oui, l'Action française, on ne fait pas dans la dentelle. Ah, on le fait avec élégance, mais c'est violent.
Oui, enfin, c'est plus que violent. C'est carrément un appel au meurtre. On le traite d'ahuri, de non-humain. Et on dit, néanmoins, là, on reprend cet homme-là, il faut le tuer dans le dos, en tirant dans le dos. C'est-à-dire qu'il n'est pas digne d'être affronté de face. Et le 16 février 1936, alors qu'il y a cette union qui se fait entre ces divers partis dans la perspective des élections du mois de mai, il quitte l'Assemblée nationale avec un de ses amis, M. Menet, et son épouse. Ils prennent place dans une voiture spacieuse, arrivent à l'angle de la rue de l'Université et du boulevard Saint-Germain. Vous pouvez vous y rendre, vous, aujourd'hui, et vous serez dans la situation. Et là, le chauffeur tombe sur des groupuscules étudiants et représentants royalistes qui viennent d'assister aux obsèques de Bainville, l'historien. Et quand on reconnaît, on l'aperçoit. Mais c'est Blum, à mort Blum! Il faut le pendre, il faut le prendre! On commence à secouer la voiture, on tape contre les vitres. Certains prennent des éléments, une vitre finit par éclater, il est blessé à la tête, le sang qui coule. Miraculeusement, il s'enfuit, se réfugie dans un immeuble, mais il a été gravement blessé et il s'en est fallu d'un rien qu'il ne soit lynché. Voilà ce qu'il faut savoir. Et dans les journaux, on ne s'excuse pas, c'est tout juste si on ne dit pas, mais c'est dommage que l'action n'ait pas abouti. Et d'ailleurs, les trois qui seront arrêtés auront des peines extrêmement faibles, ce qui montre bien qu'il y a une sorte de connivence générale par rapport à cet antisémitisme. Alors, les élections, elles sont flamboyantes. La première fois que le Parti socialiste obtient autant de sièges, les communistes aussi, les radicaux, ce qui fait que l'on tient la Chambre. Ah, ils rêvent déjà de ce fameux monde nouveau. Mais, au Havre, soudain, début mai, eh bien, nous avons un foyer d'excitation qui naît aux usines Breguet. Alors, Breguet, ce sont les avions, mais également, ce sont les montres.
Bien quand vous faites les avions.
Oui, oui, je déconne de temps en temps. Alors, nous avons dans
tout,
ces usines...
Tout son corps s'exprime.
Tout simplement, des ouvriers qui se sont plaints et mis en grève parce que le 1er mai, on les avait empêchés de se manifester leur enthousiasme pour la fête du travail. Ils ont été licenciés. Alors les camarades disent, il faut qu'ils soient réintégrés. Et là, c'est incroyable, parce qu'il y a une contagion. Ça rebondit à Toulouse, aux usines Latécoère. Ah, Latécoère, à l'époque, c'est tout un mythe. C'est l'aéropostale, c'est Mermoz, c'est Saint-Exupéry. Eh bien voilà, chez Latécoère, là-bas, ils, eux aussi, ils débrayent. Et toutes les usines, les unes derrière les autres, on fait tomber les grilles, mais on reste dans l'entreprise. Pourquoi ? Ben parce qu'on a peur que les patrons, ils engagent des jaunes. Mais en revanche, il n'est pas question d'abîmer le travail, et surtout les moyens de production. Alors, on place des cellules de surveillance, et puis à côté, eh bien, on vient avec les lits de camp. On a les pique-niques, on tape la belote, l'accordéon, les petits flonflons, parce qu'il faut encourager le moral. Et alors, ce qui est extraordinaire, il y a 2 millions de personnes qui, en France, ne franchissent plus les portes de l'usine. Ils sont à l'intérieur. Les femmes viennent apporter le ravitaillement. Mais alors, ce qui s'était jamais vu, ce sont les employés comme ceux des grands magasins. Et aux Galeries Lafayette, eh bien, soudain, on récupère les meubles d'exposition et on dit ben, « c'est comme ça que nous allons camper ». Il y a un personnage flamboyant, lui aussi, qui a beaucoup marqué l'histoire du syndicalisme, c'est Léon Jouault. Et on voit Léon Jouault qui entre dans les Galeries Lafayette.
Léon Jouault qui est le patron, si on peut dire, enfin qui est le chef de la CGT. Oui.
Voilà. Et il se cambre et se campe au-dessus des escaliers et il enthousiasme l'ensemble des employés. Et ça dure, ça dure, ça dure. Tant et si bien que le 4 juin, quand enfin il devient président du Conseil, le premier souci de Léon Blum, c'est de dire, mais il faut répondre à leurs attentes. Mais que demande-t-il ? Ben, il demande déjà un temps de travail qui soit un temps de travail supportable. Il demande d'avoir des conditions sociales qui prennent en compte éventuellement la maladie. Il n'y a rien de tout ça. Notons qu'au passage, Léon Blum a quand même l'intelligence, alors que les femmes n'ont pas le droit de vote, de retenir trois femmes comme secrétaires d'État. C'est un événement étonnant et qui montre cette capacité à envisager un avenir complètement en césure avec ce que l'on a vécu depuis le début de la République, sans parler bien évidemment de la royauté. Alors voilà donc Léon Blum qui convoque les patrons, qui convoque les syndicats. On est à Matignon parce qu'on s'est réunis à Matignon. Ça, c'est une nouveauté aussi. Car en général, le président du Conseil, il s'octroyait un ministère. Et c'était dans ce ministère qu'on le retrouvait pour mener les affaires. Là, non, comme il n'en choisit pas un particulier, il s'installe à l'hôtel Matignon. Aujourd'hui, nous avons le Premier ministre et on conclut les fameux accords de 1936. C'est prodigieux. La France va déferler sur les plages. Enfin, les congés payés. 15 jours de congés payés, vous pourrez prendre le train, 40% de réduction pour les ouvriers. On les voit partir aussi à vélo, en tandem. C'est une France, je dirais, de l'exubérance, une France de l'espoir, une France du dynamisme et de l'enthousiasme. Malheureusement, ça durera à peine un an, car le gouvernement est renversé dès 1937.
Merci beaucoup, mon cher Marc. Les accords de Matignon. Tout le monde a envie d'une hausse de salaire de 7 à 15%.
Mais Franck va tout nous dire. Je n'ai fait qu'effleurer légèrement.
7 à 15%, on note bien. Voilà. Donc c'était ça les accords de Matignon.
Oui, il faut bien revenir, recomprendre que tout ça vient dans la foulée d'une victoire politique. Moi, je me rappelle quand j'étais au collège et qu'on nous racontait le Front populaire, je ne comprenais pas. Je pense que nos profs d'histoire à l'époque nous expliquaient pas bien, en tout cas les miens, parce que je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il y a des grèves alors qu'ils viennent c'est de ça. Gagner ? D'habitude, on a des grèves en attendant la victoire. Non, mais là, il y a la victoire et les grèves arrivent après. Mais c'est parce que cette victoire était une victoire politique voilà. Et que le monde ouvrier se sentant enfin entendu et reconnu, veut ancrer les choses et pousser le gouvernement à aller plus loin.
Or, c'est un mouvement spontané, il faut le signaler, ce ne sont pas les syndicats qui allument la mèche.
Et ce qui est très important, c'est que le gouvernement, à l'époque, n'a pas encore les moyens de négocier comme l'auront les gouvernements de l'après-guerre, à partir de la 4e et surtout de la 5e République.
C'est-à-dire les moyens de négocier.
C'est le gouvernement lui-même qui décide les évolutions, etc. À l'époque, le gouvernement, il peut servir d'arbitre, mais ceux qui décident de lâcher ou ne pas lâcher, c'est le patronat. Et c'est ça le secret de cette affaire de 1936. Il faut bien comprendre ça. Hein. C'est-à-dire que, bien sûr que Léon Blum représente le Front populaire, il y a un gouvernement de gauche, d'une gauche unie, hein, ces quatre grandes composantes dont nous
mais pas les communistes qui sont, disons, complices, mais à l'extérieur du gouvernement.
Les communistes sont des, sont des observateurs
actifs.
Voilà. Très actifs, en l'occurrence, à travers ce syndicat qu'ils tiennent complètement, qui s'appelle la CGT, tenu par le fameux Léon Jouot. Et c'est Léon Jouot qui va aller face au patronat pour demander un certain nombre de choses. Alors, c'est vrai qu'il y a la réduction du temps de travail. On va passer de 48 à 40 heures hebdomadaires. Ça, c'est une révolution considérable, qui d'ailleurs a peut-être été un peu rapide, qui n'a pas été bien organisée, ce qui fait que ça a semé un peu la pagaille dans l'économie française. Et dans les désastres de 1938 et 1939, il y a probablement une part liée à cette baisse du temps de travail. Les salaires qui sont augmentés dans des proportions importantes, de 7 à 15% selon les branches, on crée des conventions collectives très importantes, c'est-à-dire qu'on va enfin reconnaître les spécificités de chaque type de métier. Vous voyez, ça va être en matière sociale et salariale d'ailleurs. On crée des délégués du personnel. Vous voyez que pour le syndicalisme, tout ça est assez fondamental. Et une fois que tout ça est admis, ces accords de Matignon que surveille le gouvernement, hein. On est donc là le 7 juin 1936, c'est dans la nuit du 6 au 7 juin que sont signés les accords de Matignon. Dans la foulée, on va lancer une vague de lois. Alors là, c'est la législation sociale de 1936, fondamentale, avec bien entendu cette scolarité jusqu'à 14 ans, avec la baisse du temps de travail, avec les congés payés. Et c'est ce que nous disait Marc, c'est tout à fait nouveau pour beaucoup de familles, c'est la première fois qu'on s'en va en vacances. Hein.
On découvre la mer.
Et on s'en va à la mer, on s'en va où l'on peut. Alors, c'est merveilleux pour une majorité des gens qui enfin vont avoir des congés qui leur sont payés. Avant, quand vous partiez en congé, c'était à vos frais, hein. C'était pas payé.
Donc vous restiez à la maison.
Donc généralement, vous restiez à la maison. Mais évidemment, pour la bonne bourgeoisie qui a l'habitude de se promener très élégamment sur les planches de Deauville, voir arriver tous ces gens plus ou moins bien habillés, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde.
La une du Figaro, d'ailleurs, reflète ça. Vous voyez, c'est tout juste s'ils ne disent pas « c'est nauséabond ce qui arrive aujourd'hui sur nos belles planches qui sont fréquentées par de la canaille ».
Et puis, chose très importante, c'est les grandes nationalisations, notamment en matière d'armement, parce qu'on va y venir dans un instant, la situation, le contexte stratégique est dramatique à l'époque, et donc pour mieux contrôler les usines aéronautiques, notamment, qui ont eu tendance à avoir la tête près du bonnet pendant les événements de 1936. Donc l'aéronautique, l'armement, tout simplement, on va nationaliser. On va adopter un nouveau statut qui est une quasi-nationalisation également de la Banque de France, qui jusqu'alors était une banque privée. On a oublié que cette banque centrale, cette Banque de France, fondée par le premier consul Napoléon Bonaparte, restait une banque privée à l'époque. On va beaucoup nationaliser. Il faudrait parler de la SNCF, il faudrait parler de bien des choses.
Parce que n'oublions pas, c'est important, la SNCF, au départ, ce sont des compagnies privées. Il y a quatre grandes compagnies privées. Et soudain, eh bien, on part du principe qu'il y a une action à avoir, qu'il soit une action sociale, et que tout le pays soit irrigué, ce qui coûte très très cher pour installer un réseau ferré de deuxième zone, si je puis dire.
Alors, ça me rappelle une expression du président Giscard d'Estaing qui, battu aux élections de 1981, avait eu cette phrase que je me rappelle, « Après l'euphorie, il faut payer la facture ». Eh bien, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu cette euphorie de 1936, mais dès le début de 1937, les belles réformes se heurtent à ce que certains vont appeler le mur d'argent. Inutile de vous dire que les grands actionnaires des plus grandes entreprises, les financiers, les familles, les fameuses 200 familles qui composent la Banque de France, etc., tous ces gens-là ne voient pas du tout le Front populaire d'un bon œil. On va tout faire pour limiter les dégâts d'un point de vue financier et capitalistique, et ça va avoir des effets dramatiques. Effectivement, le Front populaire, en tant que tel, s'arrête dès février 1937. C'est ce qu'on appelle très pudiquement la pause sociale. On a connu plus tard d'autres expériences du même genre qui se sont terminées de la même façon.
Alors, il y a aussi une pression internationale, parce que là, on ne l'a pas évoqué, mais n'oublions pas, en filigrane, nous avons la montée d'un personnage en Allemagne qui se fait de plus en plus menaçant, et cet horrible bonhomme, c'est Adolf Hitler.
Alors, dans un instant, messieurs, justement, on va parler de la guerre d'Espagne, on parlera des accords de Munich, on marque une pause et on se retrouve tout de suite pour la belle histoire de France.
Retour sur le plateau de la belle histoire de France avec Franck Ferrand, Marc Menant. Nous sommes au chapitre 57, les années 30. Nous avons vu le Front populaire, nous avons vu la période de l'entre-deux-guerres, nous avons vu les accords de Matignon, augmentation salariale de 7 à 15%.
Ah, vous avez retenu ça, vous
dites. Elle a gardé les fiches. J'ai l'impression que Serge Nedjar va avoir une visite dans l'après-midi.
Mais maintenant, messieurs, vous avez quand même laissé comprendre que même au niveau international, il y avait certaines tensions. On va s'arrêter un peu sur la guerre d'Espagne,
eh oui,
sur cette guerre civile. Justement, qu'est-ce qu'on peut dire? Et la guerre d'Espagne?
Alors, on ne va peut-être pas raconter la guerre d'Espagne, mais ce qui est important, c'est le rôle de cette guerre d'Espagne dans notre histoire de France. Parce que si la guerre d'Espagne est née, la guerre civile, là-bas, de l'autre côté des Pyrénées, c'est parce qu'il y a eu un Frente Popular, comment on dit en espagnol, mais en gros, c'est ça, qui est la réponse, qui est la réplique du séisme français, si je puis dire. C'est-à-dire que cette République espagnole, qui déjà depuis longtemps déplaisait à tous les milieux catholiques et conservateurs espagnols, cette République va acquérir une dimension sociale quasi-révolutionnaire qui ne peut plus passer. Et il y a une partie de l'armée espagnole qui se soulève et qui va se retrouver sous les ordres du fameux général Franco. Et c'est Franco qui va mener littéralement là l'insurrection contre. Alors là, la photo de Franco que vous avez, elle date des années 50.
Oui,
vous l'imaginez beaucoup plus jeune là, dans les années 1930. Mais c'est lui qui va essayer de prendre le pouvoir et qui va y arriver. Et vous imaginez bien que pour toute la gauche européenne, rappelez-vous la mobilisation des brigades internationales, c'est le grand combat du moment. Et le gouvernement français de Front populaire, le gouvernement qui est le gouvernement frère de ce gouvernement de Front populaire espagnol, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, Léon Blum est embêté.
Oui, parce que Léon Blum a envie d'aider. Là encore, hein, l'effet miroir, il a envie d'aider. Mais d'un autre côté, il y a une telle opposition qu'il accepte de virer simple témoin et par conséquent de ne pas intervenir. Mais sur le terrain, on a André Malraux qui se retrouve chef de l'aviation, lui qui ne sait même pas ce que c'est qu'un manche à balai, il n'est jamais monté dans un avion, mais néanmoins, c'est lui qui tentera d'organiser les forces telles qu'elles arrivent. Mais comme aujourd'hui en Ukraine, elles arrivent malgré les gouvernements.
Et alors quand même, le gouvernement français va financer de l'armement, va exporter de l'armement vers l'Espagne. On peut dire que le gouvernement de Léon Blum a été d'une hypocrisie invraisemblable dans cette histoire. C'est-à-dire, officiellement, on n'intervient pas, mais on intervient quand même, mais on ne soutient
France,
pas.
C'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui.
Quand même.
De façon assez habile, diplomatique de faire la guerre.
Il faut quand même dire que ça va accentuer cette scission qui n'était pas très loin déjà entre socialistes et communistes.
Oui. En particulier avec un drame épouvantable, c'est
Guernica.
Alors, c'est un petit village de 7000 habitants. Et les Républicains comprennent qu'ils sont en train de perdre. Et les Basques se sont toujours sentis une identité à part. C'est vrai qu'on n'a jamais éclairci véritablement d'où nous vient la langue basque. Elle n'a pas de structure répertoriable. Il y a une culture totalement différente de ce qui s'agite autour de ce pays basque. Alors, ils ont toujours eu ces velléités d'indépendance. Et la République dit, vous voulez être indépendant?
La République espagnole, là, on est dans l'histoire d'Espagne.
Voilà. Soyez autonome, et puis à vous de vous défendre contre l'envahisseur, contre Franco. Et là, Franco se tourne vers les Allemands, alors que Mussolini lui
vers
a donné...
Vers les Italiens, d'abord. Oui.
Voilà, Mussolini lui a déjà donné des appuis. Il se tourne vers Hitler. Hitler appelle Göring et lui dit, eh bien, il faut les aider. Et c'est là que l'on aura l'aviation qui interviendra. Et au-dessus de Guernica, ça dure 5 heures. Des vagues d'avions, c'était tremblement de terre, les pauvres gens, c'était jours de marché qui sont littéralement déchiquetés, on se cache comme on peut dans ces ruines, tout est en train de s'effondrer en feu. Les pilotes écriront qu'ils ne voyaient plus rien, tellement la fumée se dégageait de cette ville qui était maintenant qu'un charnier.
Alors, inutile de vous dire qu'il n'y avait pas de chaîne d'infos en continu à l'époque. Donc, évidemment, L'opinion était très peu au courant de ce qui se passait. Ce qu'on voyait surtout, c'est l'arrivée des réfugiés qui, eux, racontaient beaucoup. Et puis, il y avait les correspondants de guerre qui écrivaient de grands articles dans les journaux. N'oubliez pas l'importance de la presse de cette époque.
Et on apprend ça 4 jours après. Hein. Là, où Franck a raison. C'est pas immédiat. On apprend 4 jours après avec des titres dans Le Soir.
Dans Le Soir. Alors, évidemment que pour Léon Blum, tout ça est très compliqué. Il y a eu déjà la pause sociale de janvier-février.
Et puis je rappelais, pardon, que c'était le premier bombardement de population civile de l'histoire.
Voilà. Mais on va venir à cette histoire de la montée du nazisme et de la présence du fascisme qui joue un rôle absolument essentiel dans l'histoire de France à l'époque. Mais Léon Blum va être remplacé par Chotan, Camille Chotan, en juin 1937. Il reviendra d'ailleurs au pouvoir Blum au début de l'année 1938, mais seulement pour un mois. Finalement, on ne peut pas dire que son passage à la tête de l'État, enfin à la tête du gouvernement plus exactement, parce qu'à l'époque, il y a un président de la République, qui est le président Albert Lebrun, pour ne pas le nommer, mais son passage à la tête du gouvernement comme président du Conseil ne sera pas très long. C'est quand même intéressant de savoir que désormais, il y a un président du Conseil dédié, c'est-à-dire que autrefois c'était l'un des ministres, souvent le ministre de la guerre ou le ministre des finances, qui était en même temps président du Conseil. Là maintenant, il y a un président du Conseil dédié qui siège à Matignon, d'où les fameux accords de Matignon dont on parlait tout à l'heure. L'hôtel de Matignon avait été pendant longtemps l'ambassade de l'Autriche à Paris.
Alors, maintenant qu'on a vu un peu la guerre d'Espagne, merci beaucoup pour ces précisions, on va passer aux accords de Munich. Alors que la dictature, on l'a vu, s'installe en Espagne, elle prospère dans l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie. Comment les démocraties, cher Franck, les démocraties occidentales réagissent-elles aux provocations d'Adolf Hitler ?
Elles sont assez partagées. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Évidemment, nous, maintenant, il est facile, puisqu'on connaît l'aboutissement de tout ça, il est facile de juger les gens. Il ne faut pas faire de ce qu'on appelle de la téléologie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de juger les gens et les attitudes de l'époque en fonction de ce que nous savons, nous, après coup. Il faut savoir notamment que dans les classes dirigeantes françaises, il y avait beaucoup de gens qui avaient beaucoup de sympathie pour Mussolini. Pas pour Hitler, hein, il n'y a jamais eu de sympathie pour Hitler, soyons clairs. Mais pour Mussolini, oui, il y avait une certaine sympathie, parce que Mussolini, c'était l'homme à poigne qui avait remis de l'ordre, qui avait mis les députés au pas, qui avait rendu à l'Italie son prestige, sa force économique, etc. Et donc, je pense à un président, par ailleurs, très modéré. Il ne le deviendra pas du tout pendant l'occupation, mais ne brûlons pas les étapes. Mais c'est Pierre Laval. En 1935, Pierre Laval s'entend bien, voire très bien, avec Mussolini. Or, il faut savoir que dès 1934, Hitler est au pouvoir, il est à la chancellerie depuis janvier 1933. Hein. Dès 1934, on a vu les nazis tenter des coups de force partout. Je ne parle même pas de ce qu'ils font sur le territoire même de l'Allemagne, mais par exemple, le chancelier Dollfuss va être victime d'une espèce d'attentat contre lui-même, au moment d'une espèce de soulèvement nazi en Autriche. Le seul qui s'émeut de ça à l'époque, ça va vous paraître étrange, mais ce n'est pas le Premier ministre britannique au 10 Downing Street, ce n'est pas le président du Conseil français à l'hôtel de Matignon. Non, non, le seul qui réagit, c'est Mussolini, justement. Mussolini qui va réunir la conférence de Stresa pour réagir à la réinstauration d'un service militaire en Allemagne. Vous savez que depuis 1919, il n'était plus question, évidemment, qu'il y ait de service militaire en Allemagne. Hitler, comme si de rien n'était, rétabli en violation totale du traité de Versailles, qu'il a d'ailleurs complètement
piétiné dans tous les domaines. Ouais.
Et d'ailleurs, vous savez que le premier acte d'Hitler à la chancellerie, ça avait été de faire sortir l'Allemagne de la SDN, de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Ça vous donne déjà l'ambiance, hein, général. Eh bien, à la conférence de Stresa, c'est quand même incroyable, c'est Mussolini qui dit aux Anglais, aux Français, il faudrait peut-être faire quelque chose contre Hitler. Vous voyez comment se passent les choses. Et je vous dis que le nouveau président du Conseil français, Pierre Laval, va s'entendre assez bien avec Mussolini, notamment sur la question coloniale. Il a besoin de Mussolini en Tunisie. Je vous passe quelques détails, mais il va soutenir en quelque sorte la politique expansionniste italienne en Éthiopie. Il y a un malentendu. Il est certain que Pierre Laval voulait soutenir une présence économique et politique de l'Italie. Mussolini, lui, l'a compris comme un accord de conquête. Et il va aller jusqu'à s'étendre en Abyssinie. Et à ce moment-là, ce sont les Anglais qui vont mettre le haut là en disant « Attention, vous savez que dès qu'on touche aux questions coloniales, les Anglais ne sont pas loin, généralement. » Et les Anglais vont demander la réunion d'une conférence internationale pour décréter des sanctions économiques contre l'Italie. Mais voyez l'ambiance générale. Ce sont ces sanctions économiques qui vont faire que Mussolini va se retrouver à se rapprocher d'Hitler. Et finalement, ceux qui étaient les ennemis apparemment inconciliables, c'est-à-dire Hitler et Mussolini, vont devenir bientôt des alliés. Or, c'est l'époque où Hitler, qui se sent de plus en plus fort, va envahir la Ruhr. Ça, c'était la région neutre. Hein. C'était le grand effet des accords de Versailles. Toute la Rhénanie était neutre. Et bien voilà qu'Hitler envahit la Rhénanie. Est-ce qu'on va réagir cette fois? Ah oui, le président Sarraut, le président du Conseil français, Albert Sarraut, dit « On ne laissera pas Strasbourg sous le feu des canons allemands ». Mais il ne faut pas faire des déclarations comme ça quand on n'est pas capable d'aller au bout de ces menaces. Parce que dans la pratique, la France ne fait strictement rien. Pourquoi est-ce qu'elle ne fait rien? Parce qu'elle a un haut commandement, un état-major militaire qui n'a prévu de politique que défensive. Et n'oubliez pas une opinion publique qui, par ailleurs, se souvient de la Première Guerre mondiale il y a 20 ans seulement. Hein. On n'a pas envie que ça recommence.
Un état d'esprit plutôt pacifiste. Comment ne pas retomber dans l'horreur?
Exactement. Et puis, il y a les Anglais. Les Anglais qui ont fait savoir clairement à Paris qu'il n'était pas question d'aller se battre pour la Ruhr. Alors bon, en octobre de cette année 36, Hitler et Mussolini vont signer un pacte de coopération. Ça commence à aller mal, cette histoire. Et Hitler continue, lui. C'est-à-dire que ça va bientôt être l'Anschluss. En attendant, le chancelier Schuschnigg est allé faire le tour des chancelleries occidentales, mais on l'a reçu poliment et on ne lui a donné aucune garantie. Et Hitler va mettre le grappin, 12-13 mars 1938. C'est ce qu'on appelle l'Anschluss, c'est-à-dire que là, carrément, on récupère l'Autriche. C'est-à-dire qu'il va y avoir un grand Reich, un grand empire qui est composé de l'Allemagne et de l'Autriche, vous imaginez? C'est une décision complètement incroyable. On pourrait imaginer là que ça va réagir. Eh bien non, le cabinet Chotan, qui est démissionnaire, ne fait rien à Paris et on laisse faire. Qu'est-ce que vous voulez, Hitler? On se dit, Hitler a quand même eu beaucoup de culot. Oui, il a eu beaucoup de culot, mais en face, il n'a rien rencontré. Donc,
comme un bon joueur de poker, tente le premier coup, il s'aperçoit que l'adversaire est en mollesse, et bien il dit, allons-y une deuxième fois, et plus il tente, plus il est en force. Et par conséquent, les conquérants.
Il y a dans l'ouest de la Tchécoslovaquie une population qu'on appelle les Sudètes qui parle allemand. Oh, ben, c'est la politique de nationalité d'Hitler qui, d'ailleurs, rencontrer également sa politique d'expansion vers l'Est. Allez, hop, on va essayer de récupérer les Sudètes. Alors là, quand même, on a envie de dire ouf, là, quand même, ça pose problème et on va réunir une conférence internationale. La conférence en question, elle a lieu à Munich. À l'invitation d'Hitler, qui reçoit les invités anglais et français avec son nouveau copain Mussolini. Vous voyez un peu dans quel contexte tout ça se passe. Et Chamberlain, le premier ministre britannique, essaie surtout de calmer le jeu. C'est lui, vous savez, qui fera cette fameuse déclaration « Mr. Hitler is not a gentleman ».« Monsieur Hitler n'est pas un gentleman ». Oui, bon, enfin, certes, ça, on l'avait compris.
C'est agressif.
C'est pas l'action.
Et avec Daladier, donc, nouveau président du... Parce que vous voyez, en plus, le nombre de gouvernements en France, ça change tout le temps. Avec Daladier, Édouard Daladier, homme très intelligent, grand radical par ailleurs, mais qui, là, dans cette affaire, n'a pas été capable de s'imposer à Munich... Eh bien, on décide la paix plutôt que la guerre.
Quand il revient en France, c'est quand même extraordinaire. Quand Daladier se pose à l'aéroport, il y a une foule gigantesque qui l'applaudit. Vive la paix, vive la paix. Et là, il se tourne vers ceux qui sont... Il dit ces imbéciles.
Ah non, il dit carrément « Ah, les cons ».
Voilà.
C'est vraiment une volonté pacifiste, plus qu'un manque de clairvoyance.
C'est assez terrible. Vous savez, c'est Churchill qui, à la tribune de la Chambre des communes, dit « Vous aviez le choix entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur. Vous aurez la guerre. » Et il avait parfaitement raison. D'ailleurs, on sait ce qui va se passer. C'est que 18 mois plus tard, Churchill, dans une situation... bien plus dramatique encore, sera appelé évidemment à devenir le Premier ministre anglais.
Il est l'homme vraiment du courage à ce moment-là.
Oui.
Parce que tout l'entourage les personnalités anglaises au gouvernement veulent la paix, Chamberlain est l'exemple.
Donc moralité de ces accords.
Churchill est dans l'opposition, hein, c'est le leader conservateur, bien
moralité
sûr.
Moralité de ces accords de Munich.
Alors, Hitler, la moralité, c'est qu'Hitler va dépecer littéralement la Tchécoslovaquie, il ne se contente pas des Sudètes, puisqu'après tout, personne n'a réagi. Allez hop, on récupère la Tchécoslovaquie, si je puis dire, et en mars 39, on attaque la Pologne. Alors là, non, quand même, là, cette fois, les Anglais et les Français disent non. Là, ça, c'est trop. Mais c'est trop tard, surtout. C'est-à-dire qu'il aurait fallu arrêter Hitler en 34-35, quand on pouvait très facilement le faire parce qu'il n'avait pas d'armée constituée, etc. Vous imaginez bien qu'en 39, là, maintenant, c'est un peu tard. Ça va être la course à la guerre. Ce qu'il faut vous dire, c'est que l'opinion a un peu évolué. C'est intéressant parce que, et ça, ça nous parle beaucoup, nous, avec ce que nous venons de vivre là il y a quelques semaines, cette espèce de débauche de sondage, on vient d'inventer, figurez-vous, le sondage d'opinion. Et on a créé un institut français de l'opinion publique, l'IFOP, qui va faire le premier sondage. Et sur quoi fait-on le premier sondage ?
Sur
les accords de Munich, figurez-vous.
Sur les accords de Munich.
Et sur les accords de Munich, eh bien, il y a 37% des Français qui sont contre les accords. C'est intéressant ce chiffre, parce que ça veut dire qu'il y a une grande majorité
pour ou contre les accords de Munich.
Oui, bien sûr. Il y a une grande majorité qui est pour les accords de Munich, mais il y a quand même une minorité non négligeable, il ne faut jamais oublier de le dire, qui était contre ces accords de Munich. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en juillet 39, l'IFOP fait un sondage pour savoir s'il faut empêcher Hitler d'attaquer Danzig. Vous savez, le fameux corridor de Danzig, je ne vais pas rentrer dans ces questions géostratégiques. 76% des Français à l'époque disent qu'il faut arrêter Hitler. Donc, contrairement à ce qu'on a dit, l'opinion française en 1939, elle est néanmoins prête à la guerre.
Voilà. Elle est prête à la guerre. On va voir justement cette course à la guerre et comment est-ce qu'on y arrive. Donc l'opinion française est prête à la guerre, on vient de voir le contexte trouble de l'entre-deux-guerres, mais comment est-ce qu'on se prépare dans cette course à la guerre? Est-ce qu'on aurait pu éviter aussi cette guerre? Marc Menon.
Alors déjà, Léon Blum, au moment où il est au pouvoir, il vote des budgets, il sent...
Avec Pierre Cotte qui est ministre
de l'air. Voilà, et Pierre Cotte qui est ministre de l'air depuis le début des années 30 pratiquement. Et il vote... des budgets, car il sent bien que la situation est en train de se détériorer. En revanche, en 1935, on avait un ministre de la guerre qui lui disait « mais il n'y a rien à faire, préparons-nous simplement à tenir nos positions ».
La fameuse ligne Maginot.
Voilà, et qui est ce ministre? Eh bien, c'est Pétain. Pétain qui donc, lui, ne cherche pas à faire en sorte que l'armée devienne puissante. Il dit « contentons-nous d'être sur nos positions et de là, eh bien, ce sera suffisant ».
Mais c'est toute la, en fait, c'est toute la position du haut état-major français qui est marquée, mais marquée dans sa chair par le souvenir terrible de la Grande Guerre qui ne veut pas que ça se reproduise. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fabriqué cette ligne Maginot qui est une espèce de gigantesque mur en disant cette fois les Allemands passeront pas. On a oublié que les Allemands peuvent très bien passer par les Ardennes.
Hein. C'est, voilà ce qu'ils feront avec leurs nouveaux tanks qui se promènent allègrement comme s'ils étaient dans des champs. Il n'y a pas un arbre pour les freiner.
Et puis il y a aussi cette volonté d'une certaine façon de préserver une paix sociale chèrement acquise. N'oubliez pas que ce régime est à bout de souffle. Il faut relire le livre de Marc Bloch, L'étrange défaite, hein, qui raconte justement comment tout était fait en quelque sorte. Depuis les élites jusque dans l'opinion, tout était fait pour préparer cette grande défaite qu'on va connaître et qu'on racontera la fois prochaine.
Oui, et pour autant, et pour autant...
Et pour autant, on s'est bien battu.
Voilà,
ça,
c'est ça.
On le dira la fois prochaine.
Voilà, mais parce que faut pas qu'on ait comme conclusion à ces propos une France en déliquescence, une France malassonne, avec les gens qui partent portant l'uniforme, mais en disant, bon, quand on hisse-t-on le drapeau blanc? Non, non, non. Il y a là une véritable volonté, reste que la situation, on l'expliquera, il y a ce que l'on appelle la drôle de guerre, et là c'est...
On en parlera la prochaine fois effectivement de la drôle de guerre, mais là, juste avant de se quitter, on ne peut pas quitter les années 30 sans parler de la...
Oui, parce que là, on a parlé que de choses qui fâchent.
La mode, du sport, le Paris noir des années 30. J'ai rajouté une petite question en plus. Le Paris noir des années 30. Non, mais c'est vrai. Tous les Américains venaient en France pour avoir leur nom à Paris. Ils venaient avoir...
C'est Joséphine Baker qui a ouvert la voie. Voilà, c'est-à-dire que...
Terminons sur une note positive.
Voilà, mais ce qui est extraordinaire, c'est que tous ces gens qui connaissent la ségrégation aux États-Unis, les États-Unis que l'on présente toujours comme la terre de la liberté, ils ont découvert que s'il y avait un endroit où on était dans la considération humaine, où véritablement les gens se côtoyaient sans s'occuper de la teinte de la peau, c'est la France. Là où tout est permis, là où on peut chanter, on peut danser, il y a un enthousiasme invraisemblable. Et forcément, elle est l'apôtre de cette France, Joséphine Baker. On voit tous les jazzmen qui arrivent, Saint-Germain-des-Prés, qui s'enflamment. Ouais, c'est là où ça chante,
quelle
ça
période.
Danse. Voilà,
on fait beaucoup la fête, encore comme dans les années folles. Hein. Ça n'a pas beaucoup changé, même s'il y a eu la crise, que beaucoup de familles ont été ruinées, mais quand même, on continue à s'amuser. Et puis, il y a une modernité. Au-delà même de la modernité, le modernisme, il naît dans les années 30, il ne faut pas l'oublier. Il suffit de regarder ces films, c'est la première fois qu'on a des films qui sont à vitesse normale, avec le son en plus, les films avec Louis Jouvet, les films avec Françoise Rosay, tout ce grand réalisme social, les films de Marcel Carné avec les décors d'Alexandre Trommer,
bien entendu. C'est fini, Charlie Chaplin.
Et Jean Gabin, bien entendu. Jean Gabin, enfin c'est pas fini, mais c'est un autre Chaplin en tout cas. Jean Gabin dans Le Jour se lève, extraordinaire. Il y a cette espèce aussi de goût, de la technique et de la... C'est le début des réfrigérateurs dans les maisons. Alors, ceux qui ont des réfrigérateurs sont encore très rares.
Mais c'est le début.
C'est le tout début de la télévision, les premières expériences de télévision. C'est l'explosion de la radio et puis surtout l'explosion d'une chose. Ça, je ne sais pas s'il faut s'en féliciter, mais les années 1930, c'est l'explosion de la publicité. Publicité dans les magazines et dans les journaux, publicité à la radio du matin au soir. Publicité qui clignote partout sur les édifices.
Mais le bouleversement est total parce que c'est aussi le téléphone.
Et oui.
C'est-à-dire que soudain, dans les maisons, vous décrochez et vous avez votre correspondant même au bout du monde. C'est-à-dire qu'on est dans une transformation aujourd'hui. On a la sensation d'être dans un épisode de l'épopée humaine où tout est dans le grand chamboulement. Mais l'instant déterminant, ce sont ces années 30, les avions qui vont passer l'Atlantique. C'est-à-dire que vous pourrez partir de Paris et arriver à New York. C'est ces grandes envolées de ces princes du ciel que
sont... même, la grande réalisation française des années 30, c'est pas un avion, c'est un bateau, c'est un navire, le plus célèbre de tous les navires de tous les temps, c'est le paquebot Normandie, qui a été lancé le 5 mai 1935.
Ça fait du bien.
Il y aura un petit frère, le France, qui terminera moins bien.
Ça fait du bien d'avoir ces petites touches de modernité, voire de modernisme. Fiche de révision, messieurs. Commencée dans la crise économique et politique, la décennie 1930 voit arriver au pouvoir une coalition de gauche, le Front populaire. Ensuite, en juin 1936, les accords de Matignon favorisent les salariés, améliorent les conditions de vie d'une majorité de Français. Et puis la guerre civile en Espagne, la conquête d'Éthiopie par Mussolini, les annexions autoritaires d'Adolf Hitler inquiètent les puissantes démocraties occidentales, mais sans les inciter à réagir par la force. Voilà le bilan de cette émission qui commence à dessiner la drôle de guerre pour la prochaine fois, mais deux livres pour terminer. Marc Menant, Du mariage, de Léon Blum.
Et là, vous serez au contact de Léon Blum, cette plume virevoltante et cette apologie de l'amour libre, l'amour sans contrainte, l'amour en dehors de toutes les obligations familiales du mariage.
Merci Marc Menant. Il faut respecter le mariage. C'est
mais
une institution.
Je ne dis rien.
Franck Ferrand, les années 30 de Olivier Dard.
Oui, et ça, j'ai envie de dire, c'est une énorme fiche de révision pour comprendre tous les aspects de ces années 30. C'est un livre très complet.
Merci Franck Ferrand. Merci Marc Menant. Je vais vous piquer votre livre quand même. Prochaine émission, la drôle de guerre. Merci à tous.